à tous, très chers auditeurs, et bonjour Alain.
Bonjour mon très cher Alex de mon cœur.
Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons du coup...
Avec plaisir.
Et oui, certes, certes. Eh bien, je te laisse peut-être engager...
Oui, parce que je me suis aperçu que tu recevais un bel invité, un bel être humain qui va nous parler d'un beau travail théâtral sur, autour et dans la question des migrants et des migrations d'aujourd'hui. Et ma chronique, elle va être dédiée à une dame, Stéphanie Bossard, formatrice en travail social, qui vient d'utiliser son expérience donc pour accueillir les migrants par la publication d'une belle petite publication. Merci Mélissa qui vient de m'apporter sur la table les coordonnées que je vous donnerai tout à l'heure. Alors, les temps, vous savez, de notre monde d'aujourd'hui sont ceux des migrations en tout genre, au sommet des nations et des États, et l'on ne sait pas toujours de quoi sera fait demain, de quelle société au pluriel, de quel système au pluriel aussi, nous construirons enfin l'avenir de cette planète aujourd'hui tellement mise à mal pour les 7 milliards de petits princes et de petites princesses que nous sommes. Comment nous étonnerions-nous de l'extension avérée de ces phénomènes migratoires traversant tous les continents et tout particulièrement notre époque et notre monde quand ils nous interrogent tous les jours sur le pavé même de nos villes et sur leurs bancs. Stéphanie Bossard, donc, son nom s'écrit B-O-2-S-A-R-D, qui est formatrice en travail social, a utilisé son expérience d'accompagnement de migrants pour mettre des mots sur un parcours, sur une rencontre et finalement une réalité, celle des migrants en Touraine. Accueillir les migrants, rien n'est facile, mais tout est possible. C'est le titre direct de Stéphanie Bossard pour le récit de Stéphanie aux éditions Silesps, S-Y-2-L-E-S-P-S-E. Engagée à RESF, qui signifie Réseau Éducation Sans Frontières, une association bien connue dans notre région et dans notre Touraine, animée par Patrick Bourbon notamment. À travers son engagement, donc, elle établit, Stéphanie Bossard, plusieurs constats dans son livre, où elle dénonce la question non résolue de l'hébergement des migrants. Elle dit « On a les moyens, mais il n'y a pas de volonté politique ». Voir toutes ces femmes avec enfants sur le trottoir en plein hiver, c'est inacceptable, bien sûr. Et si la table de Jeanne-Marie n'existait pas, c'est elle qui parle encore, c'est une centaine de personnes qui ne mangeraient pas. Stéphanie Bossard en appelle donc au droit, aux politiques et à l'État pour l'application de toutes les conventions. Rien n'est facile, mais tout est possible, comme elle sous-titre elle-même son livre « Témoignage ». Donc le titre, je vous le rappelle, hein, c'est... je vais vous le rappeler tout à l'heure. « Accueillir les migrants, rien n'est facile, mais tout est possible ». Voilà, de l'engagement solidaire et solitaire aussi à l'écriture, Stéphanie Bossard nous rappelle à notre devoir d'humanité, de dignité humaine, et c'est bien. Vous savez, il y a quelqu'un dont on a beaucoup appris en allant à l'école et en faisant un peu de philosophie ou simplement de culture littéraire. Quelqu'un qui disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». C'était Michel de Montaigne et ça fait déjà des siècles. Alors, accueillir les migrants, rien n'est facile, mais tout est possible. Aux éditions Silesps, c'est 10 euros seulement, un petit prix. Je vous trouverai tout à l'heure le moyen de savoir comment vous le procurer, mais je pense que le mieux sera de vous adresser au RESF pour savoir comment régler votre petite quote-part de 10 euros et accueillir les migrants au fond de vos cœurs et sur les étagères de votre bibliothèque. Une petite chanson, une belle petite chanson, un joli petit bijou, c'est Pierre Perret, qui n'est pas qu'un rigolo ou qu'un rigolard, qui a souvent, par l'introduction de l'intelligence dans ses petits poèmes, petits bijoux, nous a ouvert les yeux et les cœurs.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily, elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Eh bien, de retour dans votre émission Sortez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Achille Jourdain. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es venu pour nous parler du spectacle Lettres sans abri qui se tiendra le 14 décembre à Jouer-les-Tours à la salle Laborde. Mais d'abord, je te laisse du coup raconter un petit peu ton histoire. Ça me semble très intéressant de nous la conter.
En fait, le spectacle Lettres sans abri démarre en janvier 2018. C'est la mise en application du plan Grand Froid et dans les médias, on parle beaucoup des personnes dans le besoin comme des invisibles. Or, moi, je suis parisien et les personnes que je croise tous les jours dans mon quartier sont bien visibles. Et me vient alors l'idée de partir à la rencontre de ces personnes, d'échanger avec elles, un petit peu comme un défi pour prouver le fait qu'ils sont bien visibles. Et en fait, c'est une fois toutes ces rencontres faites que je me suis dit, mais il faut en faire quelque chose. Moi, je suis comédien et c'est vrai que du coup, je me dis qu'il faut en faire quelque chose et me vient l'idée de porter ces histoires sur les planches. Et donc, c'est ainsi qu'est né le projet. Donc, j'ai commencé en janvier 2018 et on jouait la première du spectacle en mai. Et depuis, on est en tournée un petit peu partout en France et de passage à Jouer-les-Tours ce samedi.
Très bien. Est-ce que du coup tu peux revenir vraiment sur les premières sensations que tu as eues en allant, c'est-à-dire qu'un jour tu t'es dit bon bah voilà, je vais aller à l'encontre de ces gens-là, en fait je vais aller les rencontrer.
À la rencontre plutôt.
À la rencontre, j'ai dit à l'encontre.
Ouais, à la rencontre de ces personnes.
À la rencontre, bien sûr.
L'idée c'était vraiment pour moi d'essayer de comprendre en fait comment on se retrouve là, comment on se retrouve à dormir sous nos fenêtres, comment on se retrouve à parfois décéder dans la rue, quels sont ces parcours de vie et en fait. À ma grande stupéfaction, les parcours de vie, en fait, ils sont très proches de ceux de Monsieur et de Madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui tombe subitement au chômage et qui, quelques mois après, se retrouve à la rue, un divorce, des violences qu'on peut vivre. Et en fait, c'est tous ces petits moments, ces déclics, en fait, qui m'ont vraiment étonné. Et c'est là que je me suis dit que personne n'est à l'abri, c'est le cas de le dire. Et en fait, j'étais vraiment surpris par la diversité des profils que j'ai rencontrés. Je pensais que la rue, c'était essentiellement des hommes qui dormaient en fait pas du tout. Selon les chiffres, on estime qu'il y a à peu près 40% des personnes dans la rue qui sont des femmes. Donc déjà, j'ai découvert des femmes qui se griment, qui se coupent les cheveux, qui se cachent sous leur capuche pour pas être la proie des hommes. Une femme que j'avais rencontrée qui avait subi des outrages et des viols lors de son passage à la rue m'expliquait que en fait, la femme, elle est moins chère qu'une pute, et donc du coup, elle devient une proie. Et donc, c'est vraiment cet étonnement des profils très variés, et surtout de la manière dont on s'y retrouve subitement. Et après, la route est longue pour s'en sortir. Heureusement, on a un travail qui est fait par des associations, et on y reviendra. Mais c'est vrai que, en fait, on y tombe très rapidement, et pour s'en sortir, c'est un vrai tourbillon, et la remontée est très compliquée.
Oui, c'est un engrenage, en fait.
Absolument,
qui te pousse vers le fond en quelque sorte.
C'est ça, c'est un engrenage et puis il y a énormément de démarches à faire pour retrouver une adresse, pour retrouver un travail, un logement. Il y a des mois et des mois de démarches à faire. Alors heureusement, on a les associations qui elles font un travail formidable et qui permettent vraiment d'aider ces personnes. Il y a aussi des centres municipaux de la région, de l'État, etc. C'est vrai qu'on essaye d'aider ces personnes. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont à la rue. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et nous, c'est ce qu'on essaye de véhiculer aussi à travers le spectacle. C'est d'aller montrer un public qui n'a pas forcément l'habitude de rencontrer ces personnes à la rue et de leur dire voilà ce qu'on vit dans la rue. Et on travaille systématiquement avec une association à qui on reverse l'intégralité des bénéfices. Ce qui nous permet aussi de dire voilà ce qui se passe localement. À Joué-les-Tours, il y a l'association Les Maisons de la Dignité qui travaille. Et on n'est pas obligé de donner de l'argent ou cotiser pour l'association, simplement donner son temps lors de maraudes, lors d'événements, etc. C'est aussi aider de manière très concrète ces personnes.
Et tu allais rencontrer dans quelle ville ?
Alors, j'ai essentiellement rencontré à Paris. Après, lors des voyages que j'ai pu faire, j'ai rencontré d'autres personnes en région. Après, j'ai aussi travaillé dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des CHRS. Auprès de foyers, d'associations, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde maintenant et pas mal de profils différents. Moi, j'avais à cœur dans le spectacle de rendre quelque chose d'anonyme et de toucher à quelque chose d'universel, en tout cas par rapport aux rencontres que j'ai pu faire. Donc c'est vrai qu'on cite jamais les prénoms, on cite pas l'âge, le sexe n'est pas dit. En fait, certains hommes que j'ai rencontrés sont devenus des femmes dans le spectacle. J'ai tout mixé pour essayer de pouvoir parler de chacun et d'avoir des histoires qui sont bien construites dans ces monologues et d'essayer d'évoquer un petit peu tous les travers de la rue et de la vie dehors.
D'accord. Tu peux nous en dire du coup un petit peu davantage sur comment se déroule le spectacle? C'est en fait en quelque sorte des tableaux. Il y a un tableau par personne, il y a un monologue.
Absolument, en fait, le spectacle est donc une succession de monologues. Moi, j'avais à cœur de faire quelque chose lorsque j'ai mis en scène le spectacle de très joyeux, mais aussi de très décalé. La facilité aurait été de mettre une tente sur scène, de mettre un personnage assis sur un banc. Moi, je voulais pas tomber dans le cliché et dans le voyeurisme malsain. L'idée, c'était vraiment de faire une mise en scène un petit peu décalée, avec des messages sous-entendus, de faire quelque chose aussi qui, parfois, les mots sont très durs dans le spectacle. On a des situations qui sont très émouvantes. Et du coup, de proposer dans la mise en scène, dans les décors, quelque chose qui change, quelque chose de plutôt joyeux, ça permet aussi, quand nos oreilles ne peuvent plus supporter les mots, de passer par la vision et de voir autre chose. Après, c'est vrai que dans le spectacle, on essaye d'alterner homme-femme. Il y a une parité, il y a autant de textes d'hommes que de femmes. Et l'idée, c'est vraiment de toucher à tous les différents points du quotidien dans la rue pour qu'on s'y retrouve. Quels sont les espoirs aussi qu'on porte? Alors évidemment, ils sont pas tous évoqués parce qu'il y a des milliers d'histoires. Mais en tout cas, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, j'ai essayé d'être le porteur de leur histoire et de respecter le plus fidèlement possible la parole qu'ils m'ont confiée.
Et tu as recueilli à peu près combien d'histoires différentes pour ce spectacle?
J'ai recueilli à peu près une bonne cinquantaine. J'ai rencontré une bonne cinquantaine de personnes que j'ai résumées en fait en 10 textes, donc en fait j'ai eu la proposition d'écrire un livre et qu'il soit publié, et donc ça m'a mis un petit coup de boost. J'avais déjà rencontré des personnes et donc du coup tout s'est précipité une fois que le spectacle avait commencé, et donc du coup ouais, j'ai rencontré une cinquantaine de personnes qui sont condensées dans 10 textes. Alors des fois une rencontre me me donne une anecdote pour qui tient en deux phrases. Mais c'est vrai que du coup, on essaye de toucher à tous les sujets. Le sujet de les violences faites aux femmes, les viols, il y a énormément de femmes dans la rue qui sont violées, les jeunes qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas, soi-disant, les bonnes orientations sexuelles. Enfin, que des choses qui, nous, dans la vie, peuvent nous sembler... du quotidien, mais des fois le quotidien pousse à se retrouver, à dormir sous nos fenêtres. Et donc moi j'avais vraiment envie d'être le porteur de ces histoires. Moi c'est pas un spectacle, je donne pas de leçons, hein. C'est pas un spectacle spécialement politique, même pas du tout, pas spécialement engagé. Voilà, je pose un sujet sur la table et le but c'est que les gens en discutent, qu'ils soient d'accord ou non. Et en plus on leur offre une solution pour agir. Ce qu'on fait systématiquement quand on joue, c'est qu'on propose un bord plateau, un petit débat, un échange entre l'équipe du spectacle, l'association pour qui on joue, et aussi le public. Et donc souvent on découvre de belles choses, des gens qui ont vécu la rue, qui prennent le micro et qui se mettent à parler. Et soudainement, la fiction qu'on a vue pendant une heure et quart sur scène devient réalité dans la salle. Et donc c'est aussi mixer tous ces différents publics qui, moi, me tenaient à cœur.
C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, moi aussi. C'est qu'en fait, on vient au spectacle et on est davantage sensibilisé sûrement de ce qu'on était avant de venir. Mais surtout après, en fait, on a un moment où on va pouvoir s'engager quelque part si on en a envie auprès d'associations, en fait. Et à chaque fois, tu changes d'association, c'est-à-dire que changes de ville, hop, tu prends une association qui est dans la ville.
Tout à fait, on travaille systématiquement avec une association différente. En fait, le but, c'est aussi de dire... on vient, nous, on est en tournée, on vient jouer dans une ville, mais on vient pas juste, on pose pas juste nos bagages pour une semaine, on installe nos projos et on s'en va. Non, nous, en fait, on veut travailler aussi sur le long terme dans la ville. Et c'est vrai que l'ensemble des bénéfices qui reviendront ce samedi à l'association Les Maisons de la Dignité, en fait, ça servira pour leurs actions dans les semaines, dans les mois à venir. Et donc, c'est aussi pouvoir dire que, quelque part, la parole qui m'est confiée par ces personnes... elle va bénéficier à cette cause. Et donc, c'était quelque chose d'absolument capital pour moi que les bénéfices reviennent. On change systématiquement d'association parce qu'on veut vraiment une implantation locale sur le terrain. Des gens qui sont en contact avec les personnes qui dorment dans les rues, avec les autres associations, avec vraiment la population locale. Et donc, c'est vraiment important pour nous de travailler avec des acteurs majeurs ici et là. Et donc c'est vraiment un projet qui a été aussi construit sur ce système de... qui n'est pas un partenariat, mais qui est vraiment au profit des associations.
Qu'est-ce qui t'a, pour finir avec cette première partie, et peut-être qu'après, du coup, on parlera davantage de l'association Les Maisons de la Dignité, qu'est-ce qui t'a touché le plus chez ces personnes, ou enfin, quelle histoire tu as recueillie qui t'a le plus touché?
Moi, je pense que c'est l'histoire certainement la plus touchante. C'est un jeune homme qui vivait dans le nord de la France et qui en fait a été chassé de chez lui parce qu'il était homosexuel et donc il se retrouve à Paris. Il dort dans un squat où il se prostitue, etc. Il y a toute une histoire sombre où il tombe dans la drogue, etc. Et en fait, ce jeune homme à mon âge et ça fait très bizarre de se dire que du jour au lendemain, tout bascule. Et moi, j'avais 18 ans quand je rencontrais les premières personnes. Et il avait 18 ans. Et à 18 ans, il avait déjà 6 mois de rue derrière lui. Et voilà, c'est absolument énorme. Il faut savoir que dormir dehors, on n'en a pas nécessairement l'impression. Mais c'est absolument ravageur. Le sommeil est complètement détruit. On a mal partout. Enfin, c'est vraiment difficile. Et à 18 ans, il a vécu déjà 6 mois dans la rue. J'ai malheureusement pas réussi à garder contact avec lui, je l'ai pas retrouvé parce que c'est des personnes qui sont très mobiles au cours de la journée et donc du coup je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais c'est effectivement l'une des rencontres les plus marquantes, mais elles le sont toutes parce que finalement en fait souvent on dit que le spectacle parle des sans-abri, mais pas tant que ça, il parle surtout des humains, parce que oui, le point commun c'est la rue pour toutes ces personnes, mais c'est surtout des histoires humaines. Et on parle aussi bien du passé, du présent dans la rue, et aussi le futur et les espoirs que ces personnes portent.
Alors justement, qu'est-ce qui a constitué et fabriqué ta sensibilité à toi? Quelle est ton histoire, tes études, tes origines sociales? Qu'est-ce qui fait qu'un garçon comme toi peut être sensible aux questions migratoires et qu'à côté de toi peuvent subsister des gens qui ont la parole raciste et qui continuent d'avoir la haine de l'autre et la peur du voisin?
Alors moi, je suis élève au Cours Simon, qui est une école de théâtre à Paris. Oui, c'est vrai que je fais depuis longtemps ça, et donc j'ai un éveil artistique aussi par mes parents, qui est certain. Et en fait, moi, j'avais une certaine crainte, en fait, petit, des personnes qui dorment dehors. une crainte en fait de m'y retrouver et de devoir subir aussi cela. Et c'est vrai qu'en grandissant, bah le regard change, d'autres questions viennent sur des questions bah du quotidien, l'hygiène, comment on fait, etc. Et c'est vrai que depuis janvier 2018, moi ça a été l'électrochoc où en fait je me suis dit mais reconnaître que ces personnes sont invisibles et les décrire comme telles, c'est accepter finalement qu'il n'y a rien à faire puisqu'elles sont déjà invisibles, elles sont déjà sorties de tout système. Et moi, en partant à leur rencontre au début, je me disais pas que je voulais écrire quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça m'a complètement métamorphosé, mais même au quotidien, ça a vraiment changé et bouleversé mon quotidien. Et je pense que cet éveil et cette ouverture à l'autre, après c'est difficile de parler de soi, mais je pense que je l'ai toujours eu. Et justement, j'ai beaucoup de mal qu'on puisse avoir cette haine juste pour une couleur de peau, une religion ou en tout cas une peur envers l'autre. Je saisis très mal comment ces personnes font et je les plains au quotidien parce que ça doit être terrible d'être sans cesse dans la haine et la crainte de l'autre.
La peur de l'étranger. Une petite histoire comme ça en passant, ce qui explique comment sont faits les bancs dans les arrêts du tramway ou des bus dans une ville comme Tours. On a mis des obstacles pour empêcher des gens de dormir la nuit sur ces bancs tranquillement. C'est monstrueux, mais que le génie humain soit là pour chasser l'humanité, justement.
C'est... Absolument, et malheureusement, ce n'est pas qu'à Tours, il y en a absolument dans toutes les villes. Moi, je m'étais rendu par curiosité au Salon des maires il y a 6 mois, justement pour voir les mobiliers qu'on appelle anti-SDF. Et on voit souvent sur Internet sortir des images complètement aberrantes de banques qui sont recouvertes par des poteaux, une forêt de poteaux pour empêcher un pauvre monsieur qui dormait là. C'est complètement aberrant et on ne fait que reculer le souci en fait. Il serait beaucoup plus intelligent de réfléchir concrètement à une solution et pouvoir trouver une solution pérenne pour ces gens plutôt que de mettre une barre d'acier sur le banc parce que finalement il ira la pauvre personne ira 5 mètres plus loin et c'est pas très malin. On perd du temps et finalement ça devient inhumain pour ces personnes qui subissent la rue.
Dans ces gens-là, il y a des bons chrétiens pourtant.
Et il y a certainement tout plein de personnes, mais c'est vrai que...
Comment est-ce qu'on peut être en déphasage par rapport à son éducation religieuse, par rapport à sa culture familiale et tout? Il y a tellement de racisme qui subsiste dans des familles où on est allé à la messe le dimanche matin et où on continue à entretenir chez les enfants la peur de l'autre, la peur du différent.
Alors moi, je suis pas du tout religieux, donc c'est vrai que j'aurais du mal à répondre à cette question de manière générale. Je ne comprends pas la haine qu'on puisse porter aux autres. Je veux dire, on est tous faits de la même manière, on a un sang de la même couleur, peu importe qu'on soit blanc ou noir, on a un sang qui est rouge, et je pense que c'est ça aussi l'essence. Et il faut arrêter 2 secondes d'avoir cette peur envers l'autre. Moi, je peux donner un petit conseil à mon petit niveau, c'est de tout simplement aller parler aux personnes qui nous impressionnent, qui nous font peur, et il y aura peut-être un peu moins de racisme, il y aura peut-être un peu moins de bêtises humaines. C'est vrai que cette haine de l'autre, cette peur du sans-abri, du réfugié, etc., c'est quelque chose que moi j'entends très régulièrement. Évidemment, je le condamne et je comprends absolument pas. Mais je pense que la meilleure solution, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, c'est d'affronter ces peurs qui sont complètement stupides. Et à ce moment-là, et j'en suis persuadé, et surtout je l'espère, que les personnes racistes changeront d'avis.
Mais c'est ça, c'est un peu quelqu'un qui en fait a une peur de cet étrange. En gros, c'est parce qu'en fait, il en a vu 1000 fois plus sûrement à la télévision de ce qu'on lui a raconté de ça par rapport à une fois même être allé en parler à quelqu'un en fait. Donc il y a un peu un détournement, je pense aussi des médias, tout ça, qui nous pousse à la peur parce que...
Ou pas vu du tout d'ailleurs. Tu peux ne jamais avoir rencontré quelqu'un qui dort sur un banc, puis le jour où tu le rencontres, évidemment, tu as une réaction qui est différente suivant ton éducation, suivant ta sensibilité, suivant...
Alors, on va parler dans pas longtemps des maisons de la dignité. On fait juste une courte pause musicale avec James Blake, « There is a limit to your love ».
There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow. Like a waterfall in slow. Like a map with no ocean. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love, your love, your love.
Et voilà, c'était James Blake, Limit to Your Love sur Radio Campus. Alors on revient avec notre cher invité Achille qui vient du coup nous parler du spectacle Lettres sans abri qui aura lieu samedi 14 décembre à 15h à la salle Laborde, Jouer les Tours. Alors prochaine question parce que du coup tous les bénéfices de ce spectacle seront reversés à l'association Les Maisons de la Dignité. Achille, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association ?
Absolument. L'association Les Maisons de la Dignité est une association de Jouer les Tours, mais qui œuvre énormément à Tours auprès des personnes en situation de grande précarité. Alors, ils ont des plans fixes à la gare d'aide aux personnes à la rue, maraudes, des dispositifs un petit peu plus classiques avec un projet, et ils sont en train de le financer, c'est l'ouverture de la résidence Gabriel. En fait, la résidence Gabriel, c'est une maison d'accueil, une maison de la dignité, comme le porte le nom de l'association, où en fait, on va loger des personnes à la rue, mais qui ont un emploi, et donc avec tout un accompagnement aussi pour garder cet emploi et pour aussi trouver une solution pérenne de logement avec des professionnels autour de ces personnes qui les aideront à pouvoir se réinsérer de manière pleine et entière à la suite de leur passage dans cette résidence.
Et pourquoi Gabriel, à cause de l'archange, à cause ?
Du tout, en fait, c'est la présidente de l'association, Fatima, qui a fait une rencontre il y a quelques années avec un monsieur qui s'appelait Gabriel, qui était à la rue. Elle était à cette époque à Paris dans le 19e, elle rencontre ce monsieur et en fait ce monsieur lui parle énormément des besoins, de cette idée aussi qu'il a eu de maison de la dignité pour les personnes qui travaillent et quelques mois plus tard ce monsieur va décéder et Fatima, la présidente profondément touchée, va se faire la promesse de mener à bien ce projet. Et elle est en train de le faire aux côtés de toute son armée de bénévoles. Et donc voilà, c'est
un... Finalement, elle a rencontré un ange quand même sur son passage.
C'est ça, un ange qui l'a inspiré.
Elle a appris beaucoup.
Elle a appris énormément. C'est une dame qui est très investie de manière générale sur plein de causes. Et on en discutait ce midi avec elle justement de cette envie de développer aussi à Tours, mais peut-être après ailleurs, ces maisons qui n'existent pas pour le moment en fait, où on héberge des personnes qui travaillent mais qui n'ont pas assez pour se payer un logement, et donc ces maisons qui seraient une étape dans la reconstruction de ces personnes.
En tout cas, c'est un beau nom, maison de la dignité avec un D majuscule, je suppose, mais parce
Absolument.
Que c'est au tout départ. Comme jusqu'à la fin, c'est une question de dignité, quoi, pour tous les êtres humains. Avoir le droit d'avoir un toit, avoir le droit de vivre de son travail, avoir le droit, ça semble naturel, avoir tous les droits possibles qu'ont tous les humains.
Absolument, et je trouve le nom très malin, parce que la dignité, finalement, les personnes dans la rue peuvent la perdre très rapidement. Moi, j'en discutais avec une dame qui fait quotidiennement la manche et qui m'expliquait que au bout d'une journée, quand vous n'avez pas croisé le regard d'un seul passant, bah on se dit on finit par se dire qu'on est invisible. On retombe sur ce terme et donc retrouver cette dignité aussi, se rendre compte quand on est à la rue de notre situation. Tout ça, c'est un travail qui est extrêmement compliqué et heureusement qu'il y a les associations, tous les services sociaux, etc., qui aident à faire ce travail. Et donner une pièce à quelqu'un qui fait la manche, c'est un geste, mais des fois sourire ou dire bonjour, c'est aussi un geste et qui a une certaine importance et qui peut largement égayer des journées plus sombres.
Mais il y a de beaux salauds qui nous dirigent, qui eux aussi ont perdu leur dignité depuis longtemps. Il faut y penser au moment de mettre son bulletin dans l'urne, savoir qui on appelle aux commandes pour arrêter cette chasse aux sorciers qui viennent d'ailleurs, à la peur de l'autre, etc., etc. On ne va pas citer les gens qui encombrent notre pays, mais il y en a des masses quand même.
De toute façon, je pense que c'est un élan doit avoir lieu aussi de chacun. Et c'est vraiment nous, citoyens, par des petits gestes qu'on peut aider de manière très concrète ces personnes. En attendant d'autres solutions, je suis pas spécialement intéressé par la politique, donc j'ai pas vraiment conscience de ce que fait un gouvernement plus qu'un autre, mais c'est vrai que si chacun donne de son temps, donne un petit peu d'argent, et encore une fois, c'est vraiment basé sur le bénévolat,
oui,
et l'importance d'être bénévole, et donc chacun a envie ou non de le faire pour différentes causes. La cause des sans-abri, mais la cause du climat, des réfugiés, des violences faites aux femmes. On a plein de causes en ce moment qui se soulèvent.
Il y a aussi des questions matérielles et toutes bêtes, mais quand tu accueilles, ou quand tu vas dans la rue accueillir des migrants qui dorment là depuis des nuits ou des semaines, où est-ce que tu les loges ? Qui va mettre à disposition des locaux qui soient dignes ? Moi, je connais des migrants, là. Ils vivent, des familles entières, dans deux pièces. tu vois. Et dans des appartements, heureusement, il y a quand même des appartements comme ceux-là à Tours, dans le quartier du Sanitas notamment, puisque c'est plus facile de mettre d'entasser là tous les gens qui sont de l'ordre du migratoire. Des fois deux familles dans un appartement de trois pièces, mais c'est monstrueux, avec des enfants, c'est bon. Il y a quelque chose quand même. Il y a un problème à poser de l'accueil en France, dans notre pays, parce que je dis dans notre pays, parce que notre pays, avec un P majuscule, c'est quand même le pays des droits de l'homme.
Absolument. Absolument. Il y a aussi un travail non seulement d'accueil et d'accueil dans de bonnes conditions. Mmh. Moi, je le disais, je suis parisien. Quand je passe sous certaines stations de métro, sous le pont du métro, et que je vois des centaines de personnes qui dorment sous des tentes, là, on se dit... Moi, j'étudiais, c'était pas si loin.
C'est quand on voit les images où on abandonne des camps comme ça, les forces de police qui rentrent, c'est pas des villages de vacances. Hein.
Absolument, puis, moi j'étais il y a pas très longtemps au lycée où on voyait des images de bidonvilles au Brésil où on était complètement, ouais. Complètement effarés. Et finalement, ces bidonvilles, alors la toile de tente a remplacé la tôle, mais on les a aussi dans notre pays. Et c'est vrai que l'accueil de ces personnes, il faut y prêter vraiment une attention particulière. Et vous le disiez aussi, de faire attention comment on les accueille, mais aussi une fois qu'on les a accueillis, dans quelles conditions. Moi, je dis souvent que vivre dans un appartement de 4 mètres carrés, oui, on a un toit sur la tête, c'est vrai, mais il y a aussi plein de difficultés quand on vit dans des très petites surfaces. Alors il y a le logement, mais il y a aussi le travail. Enfin, il y a énormément de questions et il y a énormément à faire en affaire de solidarité. Mais heureusement qu'il y a des belles initiatives comme celle de la Maison de la Dignité à Tours qui nous permettent d'avoir un petit peu d'espoir et peut-être que cet éveil de citoyens fera bouger les choses à une plus grande ampleur. En tout cas, c'est ce que je souhaite grandement.
Il y a des belles personnes pour accueillir ces gens-là, mais dans ces gens-là, il y a de très belles personnes aussi. Voilà.
Absolument.
Il faut que les belles personnes se donnent toute la main et que on change le monde.
Ouais, moi quand je rencontrais les sans-abri, souvent on me disait mais t'es un petit peu leur psychologue. Alors j'ai pas du tout la prétention d'être leur psychologue, mais souvent je répondais que finalement c'était plutôt eux qui étaient les miens, parce que il y a cette notion d'échange qui moi m'a vraiment étonné, où je pensais rencontrer des gens très fermés, et finalement en fait pas du tout. C'est des gens qui ont envie de parler, qui ont un humour, qui ont un bagage énorme derrière eux, et finalement c'est des gens comme vous et moi autour de cette table, et effectivement il y a de très belles personnes
qui sont bouleversants.
Ouais. Tout à fait, absolument.
D'ailleurs, je me demandais si tu avais parlé aussi avec des gens qui justement sont sortis de la rue en fait après y être allés.
J'ai rencontré en fait souvent dans les associations que j'ai pu fréquenter, des foyers, etc. On a beaucoup de personnes qui ont vécu la rue et qui du coup s'engagent en tant que bénévole pour aider ceux qui y vivent encore. Et j'en ai aussi certains qui ont vu le spectacle et donc qui ont un regard un petit peu nouveau, parce que eux ont retrouvé une décence de vie, ont retrouvé souvent un emploi, un logement, et donc du coup c'est aussi intéressant de eux avoir leur recul. Parfois ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils en sont sortis, et d'avoir leur avis sur le spectacle. Et à l'inverse, j'ai aussi des personnes qui vivent dans la rue et qui viennent à chaque fois qu'on joue, qui prennent la parole au micro. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, j'ai toujours une petite boule au ventre, parce que j'ai pas la prétention d'avoir fait un spectacle. Voilà, il y a pas qu'une seule lecture de ce spectacle. J'ai pas la prétention de dire être sans abri aujourd'hui en France, c'est ça et rien d'autre. Pas du tout. Moi, j'ai rencontré des gens, je raconte leur histoire à eux, je déforme pas. On m'a souvent dit que certains passages étaient politiquement incorrects. C'est pas mon souci. Moi, je suis porteur de leur histoire, et la promesse que j'ai fait lorsqu'ils me parlaient, c'est de dire votre histoire, elle sera pas flouée, elle sera pas changée pour rentrer dans un moule. Et c'est vrai que d'avoir les réactions qui jusqu'à présent, et je croise les doigts parce que ça se trouve samedi tout va changer, mais en tout cas les réactions des personnes qui ont connu ou qui connaissent la rue ont toujours été très bonnes, et m'ont toujours dit que j'avais entre guillemets compris un petit peu ce qu'on pouvait vivre, et du coup c'est très très valorisant, et ça fait plaisir parce qu'on le fait aussi pour ces personnes-là, et aussi pour les amener à aller au théâtre avec les associations, avec des places gratuites, en essayant de faire des navettes, c'est ce qui se passera samedi pour aller chercher des gens qui dorment dans la rue et les amener à jouer les tours. Et voilà, du coup, il y a toute cette énergie qui est hyper, hyper belle, hyper touchante. Et quand en plus, ces personnes qui savent mieux que quiconque le sujet du spectacle vous disent que c'est réussi, souvent, vous avez un peu la chair de poule
bien sûr,
en discutant avec
bien
eux.
Évidemment. Merci beaucoup Achille et Alain d'avoir participé à cette émission.
Je peux rajouter quelque chose ?
Bien évidemment.
Il y a certainement dans les auditeurs et les auditrices qu'on a ce soir des gens qui travaillent au sein de jeunes compagnies théâtrales. Est-ce que tu pourrais les encourager un peu à ouvrir les répertoires et justement à faire œuvre de modernité, de contemporanéité avec les sujets qu'on parle de la vie d'aujourd'hui, qu'on parle des choses qu'on voit sous nos yeux en ouvrant nos volets le matin, qu'on parle enfin de la vie du monde, parce que le théâtre, c'est le théâtre dans la cité, c'est la cité telle qu'elle est tous les jours qu'on voit et qu'on veut changer.
Absolument. Bah, moi, je peux que encourager des démarches, j'allais dire, de modernité dans le théâtre qui, parfois, a du mal à attirer les jeunes, etc., parce qu'il y a le côté poussiéreux, sauf que le théâtre, c'est un film qu'on fait rien que pour nous, c'est qu'il n'y a pas le barrage de la caméra et de l'écran. Alors oui, évidemment, le théâtre doit s'ouvrir sur plein de sujets, et c'est ce qui est en train d'être fait dans les centres nationaux, mais aussi les théâtres privés, publics, municipaux, où il y a de plus en plus de spectacles qui traitent de ces questions, et il y a toute une énergie qui découle aussi de l'engagement qui est de plus en plus fort auprès des citoyens, que ce soit sur la question des sans-abri, mais sur plein d'autres. Donc évidemment que j'encourage les gens qui ont mon âge à monter des projets autour de ces questions, mais je crois qu'il faut surtout encourager de monter quelque chose qu'on a en soi.
Est-ce que tu as dit de quelle génération tu es? Tu peux le préciser?
Moi, je suis né en 99, j'ai 20 ans.
20 ans, ouais. Voilà, c'est beau, hein.
Merci.
C'est beau
beaucoup.
D'avoir 20 ans comme ça, moi je le dis.
Non, mais après moi, j'encourage vraiment à monter des projets qu'on a dans ses tripes, j'allais dire, quelque chose de viscéral dont on a envie de parler, et surtout de pas avoir de frein par rapport à ça va être compliqué, il va y avoir des papiers pour monter une compagnie, etc. Faut déjà arriver avec son projet, et derrière tout ce qui peut être un peu plus laborieux, on le fera avec une certaine énergie.
C'est plus compliqué aux migrants d'avoir leurs papiers.
C'est plus compliqué, ouais. Créer une association, ça prend 10 minutes pour les personnes dans la rue, c'est beaucoup plus long.
C'est plus long. Mais enfin, il faut garder l'espoir. Bon, de toute
absolument,
façon,
absolument.
Le monde est dans des transformations là qui sont de tout caractère migratoire et autres et tout. Ça peut faire peur, mais ça peut amener derrière ça de très belles choses justement. Si on rejette pas les autres êtres humains, quoi. Tous les êtres sont humains et tout ce qui est humain ne nous est pas étranger.
Absolument. Et,
comme disait Montaigne à l'envers.
Et vous le disiez, le mot espoir, qui finalement, s'il devait y avoir une morale dans le spectacle, ce serait certainement celle-là. L'espoir de ces personnes, ces personnages basés sur des faits réels, mais aussi l'espoir que l'on doit garder, nous, citoyens, et cette énergie d'action et l'envie d'agir et de tendre la main à ceux qu'on a trop souvent rejetés.
Rester digne.
C'est ça, les maisons de la dignité, justement.
Alors, les maisons de la dignité, il faut peut-être dire l'adresse et comment est-ce qu'on s'y rend samedi prochain?
Absolument, donc ça aura lieu ce samedi 14 décembre à 15h. C'est au profit, donc le spectacle Être sans abri, au profit de l'association Les Maisons de la Dignité. Vous pourrez réserver en ligne directement sur le site de l'association, mais aussi sur place. Pour rappel, la salle La Borde est à Jouer les Tours, à l'adresse suivante, 3 route de Mont. Voilà.
Salle La Borde, L-A-B-O-R-D-E.
Avec un espace.
Avec un espace.
C'est ça.
3 route de Mont.
Exactement.
Il y a des bus qui passent très près, on peut s'y rendre facilement.
Très bien. Eh bien, on se quitte. Merci Achille d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous de votre accueil.
Et on te souhaite du coup plein d'espoir pour la suite. On
Merci.
Se quitte avec DDB et la chanson c'est Lean It Out.
Of course, bitch is so sour, but it's mermaid season. Suffering, energies, broken pockets, broken jeans. I have all the time to succeed happily. With my jeans, I'm sitting here on my own, feeling.
confused, I'm slightly amused by it all. I'm wavy, you have no control. My mind is blossoming lately. You think you're the wave, I beg to differ. I inherited the wave, I am different clouds. Different prices, different scars, different seduction. Abductions, I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different, I might stand up on my ones, I might bust a one, two step, I might just keep it serious. Stay delirious. I might get sick of ya. I might be sick with ya. Oh wow, wow, wow. I'm whipping it like I'm Hawkeye, leaning all so far. I'm over the limit, can't stop it, I'm soaring, I'm leaning up, laughing, I'm going under, cause I'm laying down. Look at my pictures, they look so sweet. So you wanna try send for me, but don't at me when you know full well, you know my ad ain't like. Really hope, not today. Don't push me to my limits, not today. Not feeling to catch nobody's. I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different, I might stand up on my ones, I might. But so on two step, I might just. I'm whipping it like I'm Hawkeye. Hawkeye. So far. I'm over the limit, I can't stop, I'm soaring, I'm leaning, I'm laughing, I'm going.
et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit le monde fait la trêve. Aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Bien, voilà, c'était Bachung sur un trapèze sur Radio Campus.
Alain Bachung, les Alains sont des gens formidables. Et je me disais en l'écoutant, je le disais d'ailleurs, que quel dommage que celui-ci n'ait pas monté un duo avec la grande Barbara.
Oui.
Parce qu'il y a tellement de concordance, de profondeur musicale, de recherche, de sonorité, etc., etc. Et puis il y a le sourire qui fait grève. Alors en ce moment, c'est totalement d'actualité. Mais ton sourire n'a jamais fait grève, toi.
Non, non, ça va, il se porte bien.
Parce que tu viens de faire une bonne émission. On peut le dire parce que notre invité est parti, qu'il a rejoint ses collègues et ses camarades pour ses répétitions du spectacle de samedi à 15h à la salle La Borde, 3 route de Mont.
Mais c'est vrai que pour le coup, là, j'ai bien aimé cette interview.
C'est un personnage intéressant. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Bon, je dis, j'ai jamais pris les gens de 20 ans pour des enfants, des niais ou des handicapés intellectuels. Mais en tout cas, lui, il a une pensée qui est structurée. Il a un engagement. Il a les mots pour le dire. Ses phrases tiennent debout. Il sait ce qu'il fait et puis il choisit des beaux combats. C'est une belle âme, c'est un bel être, ce garçon-là.
Hein, oui, exactement. On rappelle d'ailleurs que tous les fonds sont reversés à une association. C'est-à-dire
oui.
que même en plus, on pourrait se demander comment il gagne sa vie à côté. Et en fait, sa passion est destinée aussi à aider. Mais,
Il utilise le théâtre à dire quelque chose. Un théâtre de service public, d'ailleurs, c'est là-dedans qu'il va travailler toute sa vie, puisqu'il, quand il va sortir de ses cours, il va se faire embaucher dans une équipe théâtrale dont la mission est d'attirer des publics pour poser des questions sociales, culturelles, qui intéressent l'ensemble de nos concitoyens. Mais un garçon comme ça, il a une maturité, il a une réflexion, une grandeur d'âme, je le redis, parce que c'est... Bon, j'aime la jeunesse d'une façon générale, mais j'étais assez épaté par sa maturité. Là, on dit avoir la tête sur les épaules, il l'a. Hein.
Mais depuis quelques semaines, là, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau quand même des gens qui sont assez jeunes, je trouve, et qui ont une implication extrêmement forte,
oui.
que ce soit au niveau du climat. On a reçu beaucoup d'associations... lutte contre le climat ou des choses
de jeunes qui s'engagent à des combats utiles
et je pense que c'est vraiment ça la clé aussi en fait
des changements qu'on attend pour le futur
complètement
c'est vrai et par le théâtre on peut y arriver parce que c'est comme par le cinéma comme par la littérature comme par les arts et les lettres parce que bon c'est les idées qui avancent elles avancent peut-être lentement mais quand ça se déclenche et puis quand on a poser une question à un cerveau humain, il prend peut-être le temps de réfléchir avant la réponse, mais il se met en marche et ça déclenche quelque chose.
Ça éveille la première.
Et un garçon comme lui, c'est un déclencheur.
Complètement. Mais est-ce que l'art n'est pas non plus justement la porte à la sensibilisation du public en fait envers
bien
les
sûr
causes.
Que si on peut tout dire avec la peinture, avec le théâtre, avec
la
l'écriture, avec la musique, avec les chansons, avec mine de rien la petite chanson de Pierre Perret. Elle nous en dit des choses hein, sur la petite malienne qui vient travailler à Paris.
Et oui. Et d'ailleurs, je me disais qu'on pouvait peut-être passer une dernière musique pour cette fin d'émission. Et c'est rigolo parce que, enfin, pas fait exprès, mais le titre, c'est « Future Start Slow ». Le futur commence, mais doucement, lentement.
Oui.
Alors ça ramène directement justement à l'idée que dans les petits cerveaux, du coup, l'idée est clos et qu'après, elle fait son chemin. Quoi.
Mmh.
On peut y aller, du coup, c'est « The Kills ». Et Future Star Slow, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission.
Chers auditrices, chers auditeurs, cher Alex de mon cœur.
Et cher Alain, merci beaucoup aussi pour ta chronique.
À la prochaine.
À la prochaine.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.